et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel, chaud comme une baraque à frites. Thio.
Hello.
Je suis Wanaipier.
Je suis Thio.
Et nous sommes là pour vous faire un podcast exceptionnel. Tu as remis de la semaine dernière, Thio ?
Ouais, je débarrasse les poils de chat encore.
Ouais, t'étais intimidé la semaine dernière. Hein ?
Ah ouais, oui.
Ouais. Ouais. C'était du mal à...
Bah, c'était les pizzas et les bières, ça m'a achevé.
Trop dur.
Et puis l'émotion, quoi.
L'émotion, oui. L'émotion.
J'étais mué.
Mué d'émotion. Oui, c'est ça. Tu résumes bien. En introduction, je voudrais parler un peu podcast. Avant d'attaquer le...
Podcast ?
Oui, podcast, mais pas de nous. On va faire un peu de promo pour les autres. Il y a deux podcasts qui ont commencé il y a peu de temps. Je voudrais parler d'abord de Culture Breakdown. Les petits jeunes, plein d'avenir, qui ont lancé un podcast culturel en général, donc culture geek, de façon très très générique. Que ce soit cinéma, bande dessinée, littérature et compagnie. C'est assez bordélique, mais c'est assez fun. Ils font un live, c'est le vendredi soir, il me semble. On peut écouter l'enregistrement. Ils font encore, je pense, qu'ils arrivent à se réorganiser plus proprement. Mais c'est sympathique à écouter.
Bah, si c'est live, c'est peut-être aussi pour ça. Hein.
C'est peut-être aussi pour ça.
Si on faisait le podcast live...
Et enfin, je voulais aussi parler de Radio Rôliste, monté par... Cobal, quelqu'un de très très fort en jeu de rôle qui s'intéresse et oui non. Mais...
Je connais le nom.
Oui, c'est le, pas sur c'est le prince. Sur... C'est le prince des mondes de l'humour noir. Oui, mais il est aussi auteur de jeux. Il a aussi écrit sur des jeux, etc. de rôle. Donc il fait un podcast sur le jeu de rôle où il interroge des gens et où ils font de la chronique, de la critique de jeux de rôle. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au système en plus de s'intéresser à l'univers. Moi, ça me plaît. Et puis, toi, ça te gonfle.
Oui, non, les systèmes de jeu, non. Enfin, je pense qu'il y a quand même plus passionnant que le système de jeu en jeu de rôle.
Ah, bah, si le système de jeu est bien adapté à l'univers et tient la route, moi, je trouve que... Et qu'il y a des mécanismes originaux, ça vaut le coup.
Sûr, c'est sûr. Le Décagone était exceptionnel. Maintenant, je ne sais plus qui l'avait créé, ce système.
Oui, non, mais... Voilà. Et donc... alors, oui, il existe plusieurs Décagones, dont un autre sur le net que le mien. Donc, je te le dis... et oui, non, le principe est très sympa parce que moi j'aime bien ces émissions. Et puis aussi des interviews d'auteurs de jeux de rôle super intéressantes où ils s'intéressent aussi un peu à la théorie et je trouve ça bien parce que bah, maintenant qu'on est un peu plus vieux hein, et qu'on joue plus, bah, forcément ça intéresse à la théorie du jeu de rôle hein, plutôt, et on en lit plutôt qu'y d'y jouer.
Ah, on en lit, oui, c'est ça.
Voilà.
On lit les nouveaux bouquins de règles et puis on lit aussi les scénars. Et puis on se dit, putain,
oh, ça serait trop bien.
Ça serait trop bien si j'avais des joueurs. Aïe, aïe, aïe.
Dernière chose, donc on a mis il y a 15 jours en place le principe du en deux mots. Dites-nous hein, si ça vous plaît ou pas, parce qu'on va continuer sur cette émission.
Oui, parce qu'en fait, on n'a pas encore de retour là, de votre part.
Voilà, mais dès qu'on en a, on verra ce qu'on en fait. J'espère que ça vous plaît. Bien sûr, on a fait plein d'expérimentations dans les émissions. D'ailleurs, si vous avez écouté de vieilles émissions et que vous avez aimé nos différents délires, genre le délire post-apocalyptique, le délire vieille émission,
non,
etc.
Post-Knissa.
Ouais.
Knissnissna.
Enfin bon, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que nous, ça nous permet peut-être de faire des émissions différentes, originales. Presque neuf.
Attention, Ralph Azam de Lewis Trondheim chez Dupuis, le premier tome. Est-ce qu'on ment aux gens qu'on aime ?
Le genre en deux mots.
Heroic Fantasy, Trondheim.
Oui, oui, c'est du Trondheim, du pur Trondheim. Mais je noterai aussi quand même aussi du Brigitte Findakli. On ne peut le nier. Et d'ailleurs, on va tout de suite pouvoir parler des mots pour le dessin. Vas-y.
J'ai été super original là-dessus.
Vas-y.
Trondheim.
Coloré.
T'as changé, toi. Je suis sûr que t'as pas changé. T'avais pas mis ça.
Non, non, j'avais mis coloré. Tu peux vérifier. J'ai pas changé sur ma feuille. Je trouve qu'il y a eu un. Bon, alors oui, effectivement, le style graphique, c'est toujours du Trondheim avec ses personnages un peu animaliers. Mais moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est qu'il y a un travail sur la couleur de Brigitte Findakli qui change de ce qu'elle fait d'habitude. D'habitude, elle travaillait beaucoup sur des aplats, Des aplats très très clairs, très simples. Et là, il y a un travail beaucoup plus sur, je sais pas, de l'aquarelle, enfin quelque chose de plus varié, de plus dégradé, et qui met vraiment en valeur le dessin et l'univers. Je trouve que c'est très réussi à ce niveau-là. Après, ça reste du Lewis Trondheim dans le style, quelque chose d'assez efficace, assez très narratif, bien géré, assez simple,
Oui.
mais qui se suffit et qui colle très très bien à son univers. À son univers, car nous allons parler du scénario.
Moi, j'ai mis à suivre.
Ah, tu as mis à suivre? Ah, j'ai mis
Trondheim.
interrogation. Non, interrogation. Le titre est une question, et en fait, en lisant cette BD, on se pose beaucoup de questions, et les personnages passent leur temps à se poser des questions. C'est très très dans le style de Trondheim, où les personnages se disent, se demandent toujours s'ils font bien, s'ils devraient pas faire autrement. C'est vraiment du questionnement continu. Et en fait, les réponses leur tombent sur la gueule, en cours d'histoire. C'est un peu comme ça que ça se passe en général. Que nous raconte Sir Alphazam, mon cher Thio?
Bah, l'histoire de Ralph
Azam.
Aslam. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Donc on passe à la suite.
Tu es mauvais sur ce coup.
Bon, donc Ralph est donc le personnage principal de notre histoire. On va se retrouver ensemble.
Ça tombe bien, ils ont donné son nom au
Non,
titre.
tu as vu ça? Donc c'est l'histoire donc de Ralph, qui est visiblement pas le personnage le plus aimé du village.
C'est un peu le paria, hein.
Il est détesté de tous. Alors pour des raisons qui sont quand même assez obscures.
On l'apprend quand même.
On l'apprend, mais enfin bon, ça reste...
C'est une sorte de canard aux cheveux bleus.
Qu'il n'y a pas de bol.
Mais vraiment pas de bol. Il lui arrive toujours plein de merde. Il n'est pas aimé. Clairement, apparemment, il aurait dû être un élu qui aurait été dû partir
Pour la ville.
pour la ville, pour sauver le monde, entre guillemets. Et puis en fait, finalement, on n'a pas voulu de lui.
Et là, en fait, il y a eu autre chose.
On n'a pas voulu de lui. Donc bon, y a plein d'explications dans la BD sur. Il y a un peu des twists, hein, des retournements de situation dans l'histoire, et pas mal en fin de compte. Et puis c'est surtout que c'est très très riche, il se passe beaucoup de choses dans cette histoire. On apprend que le village est attaqué régulièrement par une sorte de horde de barbares qui leur pique tout.
Toutes les maisons sont sur pilotis aussi.
Oui, ça c'est pour mettre en place cet univers.
Pourquoi? On ne sait pas.
T'as pas l'air
Non,
très.
mais en fait, non, mais je dis juste, elles sont toutes sur
Oui,
pilotis et
mais.
pourquoi? On ne sait pas.
Ouais, non, mais en parlant de cette BD, t'as l'air très. Ouais, bon, fou. Enfin,
À suivre.
à suivre, tout simplement. C'est-à-dire que tu trouvais ça sympa, mais tu te demandes comment ça va continuer, et c'est ce qui te permettra de te faire ton opinion, c'est ça?
Ben oui, voilà. Parce que là, je. Bon, il y a plein des événements. Enfin, il y a plein des
Il y a
événements.
plein d'événements, oui.
Non, là, il y a plein d'événements, on va dire, qui arrivent au sein de l'histoire. On a l'histoire de Ralph qui va dire qui s'éclaircit peu à peu.
On apprend ses origines, en fin de compte.
On apprend ses origines. Il y a.
C'est Ralph Azam, spécial origine. Ya.
Non, c'était le spécial origine. Et ben voilà.
Ok, bon.
Bon, j'ai pas non, là, j'avoue que là, j'ai pas non
Bah
plus
ouais, donc
beaucoup de. Je suis pas trop en verve sur ce Ralph Azam.
tu le conseillerais pas? T'attendrais que tous les tomes sortent pour avoir un intégral?
Ouais, mais en même temps, ça va être au 24e que ça doit venir.
Je sais pas, à part Donjon, il n'a pas fait tant de titres qui sont étalés sur 50 tomes.
C'est vrai, mais je suis pas un spécialiste de Trondheim.
Bon, bien.
Ça arrive, voilà. Il y a...
On va partir sur une série qui n'en est pas à son tome numéro 1, puisque c'est ainsi, et donc tu as pu lire un peu les débuts et où tu sais un peu plus où tu en es. Nous allons parler de The Boys. Le
Le
numéro
9.
9. Le numéro 9. C'est sorti assez vite, hein, en fin de compte. Question de survie par Garth Ennis, Carlos Esquerra et John McCree. Beaucoup de dessinateurs et pas d'Eric Robertson qui ne se contente plus que de faire les couves. C'est un peu dommage d'ailleurs.
Oui. Ça c'est bien dommage.
Que nous raconte ce tome de The Boys? Est-ce que tu seras un peu plus en verve ou est-ce que tu veux que je
Alors,
vous en
ce tome
occupe?
The Boys, on suit donc toujours notre histoire de Petit Huggy. Petit Huggy qui est donc ressorti après moult péripéties sur les tomes précédents, qui commence à se poser quand même beaucoup de questions
Vis-à-vis des boys.
vis-à-vis des boys, vis-à-vis des super slips.
Oui, vis-à-vis du fait de. Les méthodes qu'on emploie dans les boys sont-elles justifiées?
Et justifiable.
Et justifiables. Est-ce que je suis pas un enfoiré de faire ce que je fais?
La question
nous rappelons que The Boys, c'est une équipe qui est là pour surveiller les super-héros et les empêcher de faire des conneries.
Voilà. Mais sauf que, à force de justement empêcher les super-héros de faire des conneries, les super-héros commencent un peu à en avoir ras-le-bol. Et donc, il va sans doute y avoir une grosse, grosse vengeance vis-à-vis des Boys.
Bah là, ce qui se passe, c'est que l'organisme qui gère un petit peu la notoriété et les affaires des super-héros, l'entreprise commerciale, qui s'appelle American Vote, décide de carrément lancer des champs pour se débarrasser des Boys.
Mais surtout, il ne faut pas toucher aux chiens.
Il ne faut pas toucher aux chiens, oui, aux chiens de Butcher. Il ne faut pas y toucher. Mais bref, ça. Et donc, on se retrouve avec des personnages qui, alors que jusqu'ici, ils étaient quand même les chasseurs,
sont chassés.
Sont un peu chassés. Ça rechange un petit peu la dynamique de l'histoire.
Et puis, même surtout, c'est que, on peut le dire, ils se font un peu casser la bouche quand même.
Ils se font un peu casser la bouche. Ils se font bien. Enfin, on se rend compte. Bah, disons que c'est pas mal, parce que jusqu'ici, on commençait à se dire oui, bon, bah, ça va, les super-héros, ils sont pas si super que ça, quoi.
Ou alors, c'est les Boys qui sont peut-être quelque part un peu super aussi.
Ouais. Par contre, quelque chose moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que les super-héros qui jusqu'ici étaient un peu tous représentés comme des gros enfoirés, commencent. On se rend compte que. Ben, pas tant que ça en fin de compte, qu'ils ont un fond qui fait que peut-être qu'un jour ils vont réagir. Le chef des sept, le pseudo Superman blondinet, on sent qu'il aimerait changer les choses, mais qu'il n'a pas le courage de le faire.
Il commence.
La pseudo Wonder Woman du groupe des sept, qui passe son temps à se bourrer la gueule pour oublier, en gros, commence un peu à se réveiller. À sortir de son mutisme. Les choses évoluent petit à petit et les personnages sont bien amenés. Comment as-tu décrit le scénario de cet épisode ?
Changement.
Cynique. On est toujours dans du cynisme, on est toujours sur une analyse du genre. Par exemple, il y a tout un passage sur le changement de costume et d'origine des personnages. Parce que en gros, ils veulent rebooster les ventes des séries dérivées autour des héros et ils veulent changer les origines des personnages. Et donc,
les costumes.
Et donc, sur la jeune petite nouvelle qu'il y a eu chez les 7, il décide de lui mettre un costume. Borat est plus habillé quand il est avec son string.
Je vais te dire, voilà, c'est pas un costume en fait, ouais. C'est du fil.
C'est du fil, voilà. Et lui change ses origines, comme quoi elle aurait été violée, etc. Et que c'est pour ça qu'elle s'habille sans vêtements, parce que tout le monde sait que les femmes violées s'habillent pas en fait. Voilà, parce qu'elles ont été traumatisées et donc elles se baladent à moitié à poil. C'est connu, je veux dire. Hein ?
T'as partout dans la rue.
C'est tout à fait logique. Oh, c'est fou le nombre de femmes. Et donc, il commence à y avoir une rébellion vis-à-vis de ça, de ce personnage-là, et de toutes les attitudes commerciales, parce qu'en gros, on a vraiment des agences de marketing qui s'occupent de gérer les costumes et compagnie. Il y a beaucoup de cynisme vis-à-vis du monde des super-héros en général, même si, on se rend compte que Garcenis, qui fait genre qu'il aime pas les super-héros, en fait, il a quand même un peu d'affection pour eux, et dans ce tome-là, on commence à s'en rendre compte. Non ?
Ouais.
Je veux dire, est-ce qu'il fait de la BD de super-héros parce qu'il n'a pas le choix et que c'est comme ça qu'il va réussir à vendre ses BD ? Ou est-ce qu'il fait de la BD de super-héros aussi parce qu'il est un peu attaché à eux ?
Alors, je sais pas s'il est attaché à eux, mais ce tome-là, tu vois, pour moi, c'est vraiment le changement parce que c'est inverse, on va dire, les rôles. Au départ, oui. Pour toi, c'était, on va dire, c'était noir et blanc. Les blancs, les gentils, c'était les boys et les méchants. C'était les super stylés.
Surtout qu'il y a quelques trucs qui sont lancés, quelques pistes, genre, et tu crois qu'on pourrait lui dire un petit Huggy la vérité ? Voilà, la phrase qui fait « Ah !»
Alors forcément, elle est à la fin du tome. Hein,
bon, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est une phrase qui raconte rien, mais qui nous met le doute, quoi. Et peut-être qu'on le saura dans le tome suivant. Au niveau du dessin, donc, qu'as-tu pu dire des performances ? Ton mot ?
Saignant.
Gras.
Et voilà, tout est dit.
Alors moi, gras, c'était pour parler de l'ancrage, que j'ai trouvé très très gras, très très un peu lourd, un peu pâteau. Et toi, saignant, c'est plus pour ce que ça montre.
Oui, mais aussi parce que dans le dessin, c'est ouais, ça montre on a beaucoup de sang, mais même tout le temps. C'est le plan, on va pas avoir le plan où on va le voir en fond en train de saigner. On va voir en fait la giclée de sang qui se dirige vers vous.
Il faudrait que ça sorte en 3D.
Oui, voilà. En 3D, je pense que tu vaux mieux avant la fin.
Oui. On notera aussi la superbe parodie de couverture de All-Star Superman.
Avec,
Le personnage nazi qui regarde une ville, le super nazi en gros, qui regarde une ville en pleine explosion. Bonne série, on recommande de continuer à la suivre en fait, parce qu'elle arrive à ne pas à se renouveler et à ne pas se perdre dans les mêmes histoires tout le temps.
Oui, mais il faudra quand même qu'il fasse attention à ne peut-être pas trop en faire.
C'est aussi sa marque de fabrique, les gens achètent aussi The Boys parce que c'est gore et que ça en fait des tonnes.
Oui, mais il y a un moment où je pense que les gens vont plus suivre si l'histoire avance pas, quoi. Et je pense pas que tu puisses en faire non plus un truc en 27, 30 tomes.
Faudra peut-être qu'il trouve une fin. D'un autre côté, ne serait-ce pas aller au bout du cynisme que de faire une BD sur les super-héros qui ne finit pas.
Qui ne finit pas, oui. Aussi, voilà. Aussi.
En faisant genre un tome à suivre, mais qui soit le dernier.
Ça, c'est l'idée.
Ouais, ça serait bien dans son style.
Alors, on change un petit peu complètement de domaine.
Ah oui, complètement.
Parce que donc nous allons parler des larmes de l'assassin. Les larmes de l'assassin de Thierry Murat, qui est donc une adaptation du roman de Anne-Laure Bondou.
Et nos mots pour le genre, c'est adaptation chez, et intimiste.
C'est chez Futuropolis, au prix de 18 euros.
Oui, quand même.
Adaptation intimiste.
Adaptation, parce que c'est adapté d'un roman ado à succès, que je ne connaissais pas du tout, mais apparemment c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup marché, et intimiste, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une ambiance très très intimiste, très... On a un côté, donc en gros le narrateur est un jeune garçon qui vit, c'est du côté du Pérou, hein, c'est ça ?
Je dirais ça, ouais.
Ouais, dans un bled vraiment paumé, où il y a juste sa maison.
Même, non, j'aurais peut-être même, tu vois, j'allais dire peut-être l'Argentine, tu vois.
Ouais.
Ça doit être vachement. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à Ushuaïa.
Bon.
Tu vois, le bout du monde.
Il est vraiment au bout du monde, où il y a un endroit où il y a juste sa baraque.
C'est comme il y a des glaciers.
Et sa famille qui.
Des icebergs. Ah, c'est l'Argentine. Ça. Parce que le Pérou, c'est un peu haut pour les icebergs.
Bon. Ou le Chili. Enfin, bon, on est nul en géographie.
Ou le Chili. Non, ou le Chili. L'Argentine ou le Chili. Je suis d'accord, je valide. Un des deux. Voilà, pas le Pérou.
Le pire, c'est que ça doit être écrit quelque part.
Je crois pas.
Bon. Quoi qu'il en soit. Le jeune vit avec ses parents dans une baraque au bout du monde qui, en gros, n'accueille que les chercheurs, les scientifiques qui viennent voir cet endroit pour voir ce qu'il y a autour.
Punta Arenas, c'est en Argentine.
Et un jour, il...
Où Chili ?
Les parents vont... Ça va, tu me laisses parler. Et un jour...
Valparaiso, c'est où, ça ? Parce que la banque, elle est à Valparaiso. C'est une filiale de la banque de Valparaiso. Donc, quelque part, Valparaiso se situe où ?
Je suis nul en géographie.
Mais attends, ça va, oh, mais cherche.
Mais cherche pendant que je parle, plutôt que de me couper. Donc, où j'en étais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a un homme en fuite qui trouve la maison, qui tue les deux parents du gamin, et qui n'a pas le courage de tuer l'enfant. Et comme il est en fuite, que c'est le bout du monde, il s'installe dans cette maison, et il commence à nouer avec l'enfant une relation très particulière. Qui va en plus commencer à devenir de plus en plus forte au moment où, justement, un homme, un poète, vient s'installer à proximité et croit d'ailleurs que l'enfant est le fils de l'assassin. Mmh. Et tout va se toucher sur l'histoire, la relation entre les deux personnages, entre l'assassin et l'enfant.
Angel, c'est l'assassin. Ouais. Et Louis, c'est le gamin.
Le dessin.
Non, Louis, c'est le...
Non, c'est le poète.
C'est le poète.
Le dessin. Qu'en as-tu pensé ?
Paolo.
Ton mot pour le dessin.
Attends, je suis en train de chercher où est Valparaiso. Pour le dessin, j'ai mis ambiance.
Et moi, pour le dessin, j'ai mis contemplatif.
Ben voilà, tout est dit.
Tous les dessins, en fait, sont sur des longues, quasiment des longues planches. Souvent, on a quelque chose de très cinématographique avec des cases très très longues. Et assez peu de cases, en fin de compte. Et ça se joue beaucoup avec le texte, la narration qu'il y a autour. Il n'y a pas de bulles. y a un dessin qui est tout en ambiance, qui est très très noir et avec des couleurs un peu dans les sépia, très très simple en fin de compte. Tu as aimé le dessin ?
Énormément. Énormément, parce que justement, c'est, bah, c'est ça te décrit, voilà, t'as juste l'ambiance, quoi.
T'as pas trouvé que ça donnait un côté peut-être un peu mou ? Je me fais l'avocat du diable en disant ça.
Non, parce que je trouve que c'est super contemplatif, et c'est fait exprès. Parce que l'endroit dans lequel ils vivent, justement, bah, ça incite les deux personnes à cette vie-là et à ces réflexions-là.
Un endroit où le temps est lent.
Ouais. Donc l'histoire, du coup, se mène comme ça.
Et ton mot pour le scénario ?
Sentiment.
Émouvant. Donc oui, oui. C'est effectivement une série très une histoire très émouvante. Cette relation qui se noue entre les deux personnages. On oublie très très vite que l'assassin est un assassin. On a toujours peur qu'il... parce qu'apparemment, il tue facilement.
C'est un meurtrier.
C'est un meurtrier, mais un meurtrier qui le fait... ça lui pose aucun problème de tuer des gens. Et on a toujours peur du moment où il va faire son meurtre. Et on se dit toujours, est-ce qu'il va pas péter son câble maintenant ? Est-ce qu'il va pas... C'est toujours très tendancieux. Et pourtant... On s'attache à ce personnage. On a envie qu'il s'en sorte et qu'il reste avec le môme. Il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui se met en place entre le lecteur et l'assassin, qui, je trouve, est assez réussi.
Le jour où ils reconnaissent chacun être né, c'est le jour où ils se sont rencontrés.
Oui. Oui. On voit qu'il y a un amour entre ces deux personnages. Alors quand même, il a tué les parents de l'enfant, quoi.
Oui, visiblement, des parents qui n'étaient pas non plus... super aimant, non, enfin...
Bah, c'est tes parents à l'autre bout du monde, quoi. Et à côté de ça, on a aussi le personnage de Louis, le poète, qui essaye d'apporter quelque chose d'autre à l'enfant. Lui apporter la culture, la lecture. Mm. Et oui, le téléphone portable, ça fait du bruit. C'est pour ça qu'on les coupe.
Oh, hein, je suis en train de chercher où est-ce que c'est Punta Arenas, hein.
T'as toujours pas trouvé ?
Ouais, mais attends, ça va, tu vis en Fornox, quoi. J'ai même pas de réseau ici. Ouais, c'est sûr, vas-y. Ouais, vas-y. Monsieur prend son ordinateur. Eh ben, c'est bien au Chili. Même pas. C'est entre le Chili et l'Argentine. Bon, je l'ai pas, en fait. C'est la Patagonie.
C'est une commune du Chili. C'est un port du détroit de Magellan.
Ben voilà.
Devant ces moments très radiophoniques... Vas-tu réussir à parler des larmes de l'assassin ?
Oui.
Et que vas-tu en dire ?
Ben que c'est une bonne histoire. C'est une très bonne histoire avec beaucoup de sentiments de la part des deux personnages principaux. Où ils sont tous les deux dans la découverte l'un de l'autre. Mais sans, à aucun moment, on va dire, ils vont se révéler les sentiments qu'ils ressentent pour l'autre. Ils reconnaissent qu'ils ont, que leur naissance, c'est ce que dit Paolo en premier, hein, que sa naissance, c'est le jour où il a tué ses parents, Angel.
Angel a tué ses parents, oui.
Oui, il se rappelle que de ça. Pour lui, c'est ça le jour de sa naissance. Mais, et Angel va reconnaître ensuite que pour lui aussi.
Mais cette rencontre avec l'enfant l'a changé.
Elle a changé. Et pour autant, il n'y a aucun moment où ils vont se dire qu'ils s'aiment ou qu'ils ont une relation de père à enfant, quoi. C'est tout dans la retenue, tout dans le suggéré. Et c'est là où le dessin, pour moi, crée l'ambiance.
Le graphisme est superbe, hein. Il colle super bien à l'histoire. C'est...
Voilà, il crée l'ambiance justement de cette retenue.
D'ailleurs, on disait que c'était basé sur des romans ados. La bande dessinée est très adulte. J'ai pas trouvé de côté spécifiquement ado dedans.
Non.
Non. Enfin bon. Très bon bouquin. Beaucoup moins fun que Scott Pilgrim numéro 5.
Ah oui. beaucoup moins fun. Mais heureusement...
T'as vu un peu cette transition de malade. Les larmes de l'assassin, Scott Pilgrim numéro 5.
Contre le monde, avec en plus le 6 avril, la sortie du Blu-ray et du DVD.
Peut-être qu'on arrivera à le voir.
Eh oui.
Pour Scott Pilgrim, nous avons choisi comme genre Scott Pilgrim et intimiste. Oui, parce que Scott Pilgrim en soi est tellement un amalgame. L'auteur a tellement digéré notre culture de jeunes, enfin de jeunes, de moins jeunes maintenant, mais notre culture, qui en a créé un genre, entre guillemets. On est entre le manga, le comics, le jeu vidéo rétro, le pixel art de temps en temps, parce qu'il y en a un peu. C'est un gros mélange, et c'est un tome très intimiste par rapport aux autres.
Est-ce qu'il existe le jeu Scott Pilgrim?
Oui, sur le Xbox Live Arcade. Et peut-être sur le PlayStation 4.
Il ressemble à ça?
Oui, c'est du pixel art.
C'est beau.
À l'ancienne.
C'est beau quand même.
Ouais. Ce tome de Scott Pilgrim. Et donc, je me souviens quand on avait parlé du premier Scott Pilgrim, j'avais dit que ça commençait comme de la bande dessinée intimiste nord-américaine. Et qu'après, ça partait en live.
Oui, ça partait un peu complètement barré.
C'est ce que j'avais dit. Bon, bah là, Scott Pilgrim s'est installé avec Ramona Flowers.
Yep.
Et bah, il commence à. Il a un boulot.
Yep.
Il est posé, en fait. Il a une vie qui tient la route.
Bah oui.
Voilà.
Il n'a pas de chat. Ah, bah si.
Si. Il a une vie qui tient la route. Il a un chat.
Il a un chat, c'est bon.
Et tout se passe bien. Et bien sûr, bah, les ex continuent à arriver. Les ex-petits amis maléfiques.
Ex-maléfiques.
Mais ils arrivent, mais en toile de fond, totalement. C'est-à-dire que toutes les bastons de cet épisode, on voit Scott Pilgrim se faire maraver la gueule et taper sur les gars, mais en arrière-plan, pendant que les autres discutent.
Ou même, tu vois que le début du fight et la fin.
Voilà. Pendant que les autres personnages discutent.
Ou réfléchissent sur le sens de la vie.
Voilà. On est vraiment dans de l'intimiste. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y a une... avancée graphique, de numéro en numéro, Brian Lee O'Malley, c'est de plus en plus fluide. Je sais pas si tu as eu cette impression aussi. Tu avances dans la BD, mais beaucoup plus facilement, beaucoup plus fluide derrière. D'ailleurs, pour le dessin, fluide, c'est mon mot. Et quel est le tien ?
Chiadé.
C'est du fluide chiadé quand même.
Non, c'est que je crois qu'a priori, on n'est pas du même avis.
Vas-y, je t'écoute. Donne-moi ton avis sur le dessin.
Alors, sur le côté fluide de la narration, je suis d'accord. Mais chiadé, parce que là, je suis désolé, t'en es au tome 5, et maintenant, c'est incompréhensible de voir qui est qui dans les personnages.
On n'a pas le même sens sur chiadé, je crois.
Pour moi, c'est chiadé, parce que maintenant, tu reconnais plus personne, quoi. Il y en a un qui change de coupe de cheveux.
Pour moi, chiadé, c'est quand c'est bien fait et que le gars, il s'est pris la tête pour le faire.
C'est à chier, là. C'est chiadé dans le sens, il a chié le truc.
Ouais.
Parce que les personnages, tu reconnais plus personne.
Moi, je trouve que non. Moi, je trouve que assez clairement, j'ai aucun problème avec les personnages sur ce tome.
Tu te retrouves autour de la table avec trois personnages qui se ressemblent quand même vachement.
Ah oui, mais c'est son style graphique qui veut ça. Mais je trouve que non, au contraire.
Oui, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les personnages. Et là, ça commence vraiment à devenir complexe.
Il y a Ramona qui brille.
Oui, alors ça, elle brille, c'est bien parce qu'on te le dit. Mais sur le dessin...
Elle a des traits dessus, autour de la tête. Ça veut dire qu'elle brille.
C'est light. Hein.
Ah ouais. Ah non, moi j'ai trouvé que graphiquement, c'était... Ah, j'aime bien qu'on n'est pas d'accord. Au niveau de la lecture, donc t'es d'accord quand même sur le fait qu'il y a une amélioration de fluidité, mais tu trouves que le dessin est pas assez clair au niveau des personnages et qu'on fait pas assez bien la différence, c'est ça? Oui, mais là, elle se regarde dans un miroir, c'est normal qu'on la confonde avec elle-même.
Non, les deux personnages qui se regardent, la seule différence, c'est les yeux.
Oui.
Il y en a des grosses billes au milieu, l'autre a des petites billes.
Et la coupe de cheveux qui n'est pas la même non plus. Bah ouais, il y en a une qui a les cheveux plus longs.
Non. Enfin, là, moi, je trouve vraiment que ça commence à devenir vraiment le gros défaut, c'est que c'est trop proche. Tous les personnages sont dessinés de manière beaucoup trop similaire pour que tu commences à faire tu fasses toujours la différence. Moi, je me suis souvent pris à reprendre la page d'avant ou prendre vraiment le temps pour essayer de voir mais qui est qui, quoi.
Et non, moi, ça m'a pas du tout fait cette impression-là, au contraire. Bon.
Ok, c'est ton choix.
Le scénario, ton mot du scénario.
Intéressant.
Quotidien.
Ah, pardon, excuse-moi. Non, le scénario, j'ai pas dit ça. Je dis que c'était intéressant. Moi, j'ai mis, c'est...
T'arrives pas à trop lire. T'as mis
dans la tête. Ouais, je sais, ça fait trois mots, mais c'était pour dire que c'était
cérébral.
Cérébral.
Non, en un mot.
Moi, mais j'en avais trois.
D'accord. Moi, j'ai mis quotidien. Oui, les personnages se posent beaucoup de questions. Il y a une belle évolution de l'intrigue. Donc là, les ennemis viennent par deux parce que normalement c'est un ennemi par tome, mais là en fait c'est des jumeaux. D'ailleurs, il se pose assez peu la question de tes ex sont des jumeaux, mais en même temps ou pas. Il se la pose pas la question. Moi, je me la serais posée. Hein. Pas toi?
Ouais, mais ça. C'est... Joker.
Joker.
Joker sur ce coup-là, je.
D'accord.
Hein?
Et donc, les gens vont se faire des films, c'est génial. Et donc, on arrive vers aussi un final qui, je pense, va être surprenant parce que, d'un point de vue scénaristique, quand même, la fin du tome est. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et j'ai hâte d'avoir le prochain tome qui sera le dernier. Donc, Scott Pilgrim numéro 5 versus The Universe de Brian Lee O'Malley, c'est chez Milady, ça coûte 6,99€ pour ne pas dire 7.
Pour ne pas dire 7.
Biozone.
C'est chez Bac à BD.
Chez Bac à BD. Et nous avons reçu cette bande dessinée aussi en service de presse. Donc c'est de Johan Morin et Frédéric Antoine. Et c'est de l'humour animalier. Nous vivons la vie des gens qui travaillent et des animaux qui vivent dans la biozone, qui est une parodie du biodôme de Montréal. Le biodôme de Montréal, Théo, tu en parleras mieux que moi.
Bah, c'est un bâtiment où ils ont différents petits endroits qui reprennent le climat, on va dire, de plusieurs zones sur la planète. Le climat arctique, tropical, désertique. Et vous avez des petits animaux qui vivent là, qui sont... soi-disant, qui sont dans leur milieu naturel.
Dans leur milieu naturel, reproduit, une reconstitution de leur milieu naturel, et donc, ok.
Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, tu passes du très très froid au très très chaud.
D'accord. Biozone est une série à gag. Qu'est-ce que j'ai dit dans le dernier épisode sur les séries à gag, déjà ?
Que tu n'étais pas du tout client de ça, mais alors, pas du tout.
Eh oui, c'est une série à gag. Non, c'est pas mon truc. Pourtant, sur celle-là, j'ai un peu plus accroché sur certains points. Bon, on va principalement suivre les aventures du boss, de l'équipe technique qui gère les animaux, j'ai l'impression.
Tu suis son nom, je ne sais plus.
Ouais, et des relations qu'il a avec...
Baxter, le linge.
Baxter, le linge. Le lynx.
Le lynx. Et Marco le croco.
Marco la loutre. Ouais, ok. Tu viens de faire un fumble total sur la BD.
Et j'avais déjà les deux prénoms. Oh.
Ouais, et le gars, je crois que c'est pas Samuel. C'est Samuel, c'est le stagiaire. Il n'y a pas son nom. J'ai oublié. Graphiquement, qu'as-tu pensé de cette bande dessinée ?
C'était très toon. Toon. Ça me fait penser à dessin animé. Ouais. Toonie.
Toonie, c'est ton mot ? Moi, j'ai mis... Ah ? J'ai sauté la ligne.
Allez, l'autre.
Ah non, sérieux, j'ai pas fait exprès. J'ai zappé. Et donc, moi, je dirais que, oui, effectivement, Toonie, c'est... Oh, c'est un très beau mot, Thio. Ouais. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé que graphiquement, j'ai trouvé ça très, très efficace, très réussi. Il y a un côté graphisme qui fait très dessin animé, en fait, qui passe très, très bien. Au niveau du scénario,
décalé.
Bon, alors j'ai pas mis de mots. Ce que je dirais que moi sur le scénario, c'est que parfois il y a des gags, on se dit il pourrait se passer ailleurs. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une thématique, mais il y a certains gags qui sont un peu hors thématique. Après, il y a un côté un petit peu débile que j'ai bien aimé, qui m'a fait sourire à plusieurs reprises. Je le dis sur la BD à gag, que je souris à plusieurs reprises, c'est pas gagné. Et surtout, je trouve que comparé aux BD à gag spécialisées qu'on peut avoir, c'est une BD qui sera un peu plus tout public. C'est-à-dire que n'importe qui peut la lire, quoi, et comprendre de quoi ça raconte. C'est pas comme dans toute Tattoo Mania, où si on a aucune idée de ce que c'est le tatouage, on va passer à côté de plein de choses.
Moi, ça me fait penser un peu à du Garfield.
Il y a un petit...
Sur certains aspects. C'est un peu ça.
Ouais, il y a ce côté-là. Il y a un côté. Ouais, il y a un côté. Comment dire,
bon, sachant que la loutre n'est pas le chien, n'est pas Audi. Hein.
Moi, c'est les chutes qui m'ont. C'est-à-dire que j'ai trouvé des passages très très drôles dans la BD. Mais les chutes, je les ai souvent trouvées qui tombaient à plat. C'est-à-dire que j'étais capable de trouver la bouille d'un personnage super drôle, de trouver la façon dont il se déplaçait sympa, mais que ça passait un peu à plat. Après, bon, il y a des gags qui m'ont fait rire. J'ai beaucoup aimé le gag où Samuel glisse et se fait un super rattrapage. Samuel, c'est le stagiaire qui comprend rien. Ça reste une BD intéressante, principalement pour son graphisme. Mais faut apprécier les BD à gags dans le genre. Si vous êtes fan de tout ce qu'on trouve un petit peu dans Spirou, par exemple, en BD à gags, je pense que vous pourrez apprécier Biozone. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Je valide. Parce que moi, j'ai bien rigolé.
Toi, t'as bien rigolé. Bon, bah, alors vas-y, défends-le un peu mieux que moi, si toi, tu as bien rigolé.
Ça va, je le compare quand même à Garfield, quoi.
Oh. Oui, c'est vrai que c'est quand même la classe. J'ai beaucoup aimé aussi le clin d'œil à la BD de Dubuc, Les Nombrils. Ah, mais ça, tu dois pas connaître, Les Nombrils. C'est une BD qui passe dans Spirou, qui est très 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 sympa. Enfin, c'est une BD à gag, enfin sympa. En gros, tu vas suivre des blondes potiches qui arrêtent pas d'embêter la grande fille Filas. C'est Les Nombrils, quoi. Les jeunes de notre époque. Voilà. Et qui n'ont qu'un rêve, c'est de traîner avec le beau gosse Kasamoto. Enfin, ouais.
Sinon, alors, à la fin donc, du bouquin, vous avez aussi Face Zone, qui est donc la page Face Zone de Baxter, le lynx, de Samuel, et de Marco,
la loutre.
Pas le croco, hein, parce que c'est pas
le même. Non, le croco, je ne sais plus comment il s'appelle, j'aime beaucoup le cousin du croco, qui m'a beaucoup fait rire. Le cousin.
Il a un bon nom.
Ouais, le gros. On va pas gâcher tous les gags non plus.
Attends, je l'ai quand même. Jabba.
Jabba, oui, Jabba. Plein de clins d'œil dans le genre. Donc, Biozone, chez Bac à BD. On va pouvoir faire du rattrapage ?
Un petit peu, quand même.
Un petit peu. Et puis, du rattrapage, Alors, tome 2 vient de sortir. Ouais. Et ben nous, on va parler du tome 1.
Voilà, parce qu'on est comme ça.
Petit Pierrot.
Alors, j'ai acheté le tome 1 de Petit Pierrot parce qu'en fait, je suis allé à la Bédérie. Et que sur le tome 2, il y avait un petit message de Dali qui disait, je vous résume, hein, c'est trop bien, il faut le lire.
Voilà. Elle avait déjà mis le message sur le tome 1.
Ben, je ne l'avais pas vu.
Voilà.
Donc j'ai acheté le tome 1 en me disant, bon, ben, je vais voir déjà le tome 1 et on verra le tome 2. Donc,
Alberto Varanda, hein, au scénario et au dessin.
Donc qui est bien connu pour
Beaucoup de tome 1.
Bon, déjà, l'âge des Chevaliers Dragons, le tome 1.
Voilà.
Je ne dirais que le tome 1.
Voilà. Il a aussi fait Bloodline, le tome 1 et le tome 2. Attends, il a fait un tome 2 quand même.
Dis-moi, il n'y a pas une critique un petit peu de ta part sur chez Varanda ?
Non, mais j'adore ce qu'il fait, mais j'aimerais bien qu'un jour il aille au bout d'une série en fait. Ou d'un arc narratif sur une série, je sais pas, mais qu'il aille au bout parce que je trouve son dessin génial. Sauf que là, bah, ça n'a rien à voir.
Ah là, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord.
Son dessin d'habitude est un dessin assez réaliste, très inspiré comics. Et là, il est parti sur quelque chose de beaucoup plus onirique, car on est vraiment dans de la BD, on va dire, pour enfants. Et dans le genre, d'ailleurs, ce que nous avons dit, c'était onirisme et strip. Qui est donc ce petit Pierrot ?
Un petit garçon qui s'appelle Pierrot.
Tu es le champion du résumé qui n'apporte rien au débat.
Comme je vends le truc.
Ouais.
Petit Pierrot est donc notre personnage principal. On va le suivre dans ses différentes réflexions sur la vie,
oui.
Tout simplement. Et en fait, dans ses réflexions, il est aidé d'un autre personnage, qui est
Un escargot.
Et forcément, quand on s'appelle Pierrot, le troisième axe, ça va être
la lune
des étoiles.
Car il rêve d'aller sur la lune. De ramener la lune.
De ramener la lune, de dormir dedans, enfin.
Et
c'est beau.
Oui, c'est beau. C'est beau d'ailleurs pour le dessin que tu dis.
C'est beau.
Moi je dis c'est Pia.
Ah ben c'est beau.
C'est beau, c'est Pia.
C'est beau, c'est Pia.
Ouais, bah moi je trouve le dessin superbe, les planches, les pleines planches très jolies. J'ai un peu du mal sur la façon dont sont faits les cheveux de Petit Pierrot quand même. On sait pas trop où ils commencent, où ils s'arrêtent. Je trouve ça assez étrange dans le style, mais il y a un côté, oui, très 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 mignon. Et qu'as-tu trouvé du scénario, ton mot ?
Rêve.
Léger.
Ben voilà.
Moi, j'ai pas autant accroché que toi, j'ai l'impression. J'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça sympathique, mais ouais, bon, c'est très léger, ça se lit très très vite. Et.
Arrête de bouger ta chaise, ça va, tant que ça, quoi. C'était la pause comme ça, du coup, je te promets que depuis tout à l'heure dans le micro, moi je l'entends.
Ah, d'accord. J'ai trouvé ça très léger, très. Très sympathique, mais bon.
Ah oui, non, mais attends.
Ça va pas emporter, quoi.
Qu'on soit bien d'accord, ça va pas changer le monde, hein. Ce ne sera pas une BD révolutionnaire qui va marquer son époque.
Mais je suis client vraiment des trucs oniriques dans ce genre-là où je fais waouh, c'est beau, machin chose. Bah là, même pas.
Alors, moi, je trouve qu'il y a des très bons petits strips. Il y a plein de bonnes histoires. Et puis c'est joli, quoi.
Tu es complètement convaincu.
Non, mais voilà, moi ça m'a vraiment fait penser un peu du Calvin et Hobbes, quoi.
Ouais, il y a de ça, il y a un peu de ça.
Il y a son escargot qui
manque de la pêche de Calvin et Hobbes, qui arrive à être à la fois onirique et à la fois péchu.
Ça
manque de dynamisme pour moi.
Ça manque de dynamisme, mais je pense que c'est pas la même volonté.
Ah non, mais je suis d'accord. Je dis pas que c'est pas volontaire, non, mais ça m'a pas touché plus que ça.
Ça fait penser à Calvin et Hobbes, mais ça peut pas de toute façon être du tout dans le même style.
Oui.
Parce que Calvin et Hobbes, déjà, tous les découpages sont faits. Était fait au départ pour passer dans les journaux.
Oui.
Donc, les pleines pages, les trucs en.
Ah non, les pleines pages sont superbes. Il a un style graphique qui est impressionnant, Varanda. Bon.
Voilà.
On va aller sur quelque chose de plus sombre. Parce que c'est bien de rêver.
Ouais, mais ça permet d'imaginer tout ça, c'est beau.
C'est beau de rêver, mais il faudrait peut-être un peu repartir dans la vraie vie. Avec Ikigami, tome 4. Ouais. Ikigami, genre, en deux mots, thriller social.
Yep.
Pour rappel.
L'Ikigami, qu'est-ce que c'est ?
Nous sommes dans une sorte de Japon alternatif, où en gros, à leurs 6 ans, tous les enfants japonais reçoivent un vaccin, et un des vaccins sur 1000 contient quelque chose qui tuera... la personne qui l'a entre ses 16 et 24 ans, je crois.
Oui.
Un truc dans le genre.
Un truc dans le genre.
Donc, en gros, une personne sur 1000 sait qu'elle va mourir avant 24 ans.
Entre 18 et 24.
Entre 18 et 24 ans. Tout ça pour essayer de redonner le goût à la vie au peuple japonais et les faire aller, en fait, c'est pour le bien social, en fait. C'est vraiment une loi qui a un but social pour que les gens s'investissent plus dans la vie en y ayant plus goût.
Bah, voilà pour le principe.
Chaque tome est toujours composé de deux histoires, en trois parties, qui va suivre la vie de personnes qui sont confrontées à l'ikigami. Et en parallèle, on a un fil conducteur avec un jeune fonctionnaire
qui
est chargé de remettre les ikigami, donc l'avis de décès. Voilà pour le résumé. Nous avons donc deux histoires dans ce tome qui sont
L'histoire d'un professeur d'anglais au collège ou au lycée. Et je sais pas, on spoil pas.
Bah, raconte le début, quoi.
Un professeur qui pense que tous les élèves peuvent réussir et que s'il n'y arrive pas, c'est sa faute à lui. Parce qu'il n'enseigne pas de la bonne façon. Donc en fait, il excuse tout à ses élèves.
Ou la faute des parents aussi.
Aussi.
Voilà.
Mais que ce n'est pas la faute des élèves, les pauvres.
Que les élèves n'ont rien à se reprocher.
Oh.
C'est juste qu'ils sont mal guidés.
Oui.
Cool. Oh. Ouais. Et puis c'est un jeune professeur.
C'est un jeune professeur.
Il a 24 ans.
Ouais.
En gros.
Il est jeune, c'est pour ça qu'il a encore ces idées-là.
Et il est confronté surtout à un élève qui est un gros rebelle et qui essaye de le mettre dans la merde, quoi. Et qui y arrive.
Qui y arrive très bien.
Ah oui, très très bien. Et bon, la question toujours, c'est qui va avoir l'ikigami ? L'élève ou le maître ?
Je crois que tu l'as un peu dit quand tu as donné son âge, en fait.
Et ben non. Je le disais pour dire qu'il y avait le doute entre les deux. Si c'est quelque chose que fait beaucoup l'auteur, justement, c'est de mettre le doute, c'est savoir qui va recevoir l'ikigami ou pas. Dans la deuxième histoire, par exemple, il coupe le doute très très vite. En annonçant qu'un des personnages a 25 ans. Il nous coupe le doute tout de suite. Et donc, on va voir un peu toutes ces notions d'enseignement, de relations, d'échanges avec le prof. Une petite histoire, enfin sympathique entre guillemets, un conte social qui... qui passe bien. La deuxième histoire, beaucoup plus intéressante.
Ouais.
Oui, un jeune branleur de 25 ans.
Un jeune branleur de 25 ans,
c'est ça. On le lance très très vite.
Qui passe tout dans sa voiture.
Ouais, mais sa voiture, super custom de la mort.
Ouais, bah ouais.
Voilà. Mais qui est marié, et qui a un gamin quand même. Parce qu'en gros, bah, il a décidé de prendre ses responsabilités, sauf qu'il le fait un peu qu'à moitié, il est criblé de dettes. Et sa femme fait ce qu'elle peut pour ça. Et donc, étant donné qu'on a qu'un peu deux personnages, dont un qui a 25 ans, c'est la femme qui va recevoir l'ikigami. Et qui surtout va essayer d'enlever son enfant pour l'emmener à l'étranger, pour l'empêcher
de recevoir
le vaccin, car elle a moins de 6 ans. Et là, on commence vraiment à aller dans le fond de l'histoire et à découvrir les réseaux et l'influence aussi de la... Il y a une police apparemment spéciale du bien social, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. De la Sûreté Nationale, un truc comme ça. Et on commence à avoir la confrontation à cette police. Alors, allons-y direct. On va parler vite fait du dessin, parce que ça c'est rapide. Ton mot pour le dessin.
Noir émotif. Ça fait deux mots, je sais. Mais ça, c'est
tu triches tout le temps. Moi, j'ai mis sombre.
Bah, noir émotif.
Ouais. Effectivement, c'est un style graphique assez réaliste, assez sombre. L'auteur va tendance en plus à travailler son ancrage en fonction de la force qu'il veut donner à la scène.
C'est les agents de la prospérité nationale.
Voilà. Et sur le scénario, tu as utilisé
malsain,
efficace. C'est effectivement malsain et efficace.
Ouais.
C'est, on a vraiment ce côté. Où est l'espoir dans cette série? On le cherche.
Ah, l'espoir, il est que dans le fonctionnaire.
Ouais.
C'est ça qui est, je trouve,
surtout assez... qu'il y a une grande avancée dans ce tome.
Ouais,
c'est très paradoxal, une révélation parce que... très intéressante, mais qu'on peut pas donner parce que c'est en fin de tome.
Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est assez paradoxal parce que le seul espoir qu'on a pour l'instant, c'est le fonctionnaire qui délivre l'ikigami.
Et surtout que là, bah, en parallèle, on va apprendre un peu l'origine de l'ikigami, le fait que bah, quand ils ont voulu le donner, forcément, il y a eu des rébellions, que les gens étaient contre, qu'il y a eu des manifestations. Mmh. Puis des manifestations pas à la japonaise, hein, il y avait des vrais gens dans la rue. Hein. Je veux dire, pour que ça arrive à ce point-là au Japon, waouh.
Bah, surtout en plus que... Alors là, je spoil pas, mais à la fin, on nous dit bien qu'il n'est jamais arrivé pour l'instant qu'une famille soit touchée deux fois par l'ikigami.
Et là, la question qu'on se pose quand on apprend ça, c'est est-ce que c'est une coïncidence, mais ça semble énorme, ou est-ce qu'ils veulent simplement nous signifier que... Est-ce que, parce que ça rentrerait dans les thématiques de cette histoire-là. Ils auraient pu donner cette phrase-là juste pour être dans la thématique de l'histoire. Ou bien alors, est-ce que c'est vraiment un commentaire pour dire « C'est quand même étrange que statistiquement, une famille n'ait jamais été touchée deux fois par l'ikigami. »
Alors déjà, qu'est-ce qu'ils appellent famille? Parce que peut-être que du coup, ils prennent que le noyau dur.
Oui.
Non, mais dans le sens, tu prends, par exemple...
C'est une loi récente aussi.
Hmm,
c'est une loi récente aussi.
Aussi. Aussi. Parce que forcément, à un moment, quand elle aura peut-être un ou deux siècles, tu auras forcément touché deux fois une famille.
Donc, beaucoup de questions. Et c'est vrai que le fonctionnaire se pose des questions. On sent qu'il n'est pas totalement d'accord, qu'il essaie d'en apprendre plus sur cette ikigami. Et il commence à réagir un petit peu plus. Pas encore de façon flagrante, mais on sent qu'il y a une amorce qui va peut-être permettre de... Il y a un point d'accroche.
Il y a un point d'accroche, et puis on... je dirais que c'est peut-être le premier tome où on sent que il est peut-être pas tout seul.
Ouais. Que d'autres personnes sont contre... D'ailleurs, même son chef,
son
il
chef
raconte qu'il a été
contre à un moment, et qu'après il est rentré dans le droit chemin, mais voilà, il y a eu aussi des personnes qui se sont rebellées contre
l'ikigami. Je trouve que ça fait gagner au réalisme social de la série, justement. De se dire que mais les gens n'ont pas pu laisser passer cette loi comme ça. Jusqu'ici, on aurait pu se dire que les gens ont fait tous des moutons et qu'ils ont laissé passer ça comme ça. Et là, on se dit il doit y avoir autre chose. Il y a forcément autre chose. Et puis on apprend aussi que l'ikigami a été imposé par...
Le pays vainqueur de la guerre.
Le pays vainqueur d'une guerre. Ce qui nous rappelle le désarmement du pays. Le fait que le Japon n'ait pas eu d'armée suite à une guerre. Et dernier point que j'ai trouvé très très intéressant, je trouve dommage juste qu'il ait fait que au tome 4, il donne quelques références
C'est toi qui me l'as fait remarquer, c'est vrai que je n'avais pas lu, c'est vrai qu'en le lisant, ça...
En fin de tome, il donne quelques références qui expliquent Ikigami, en fait, que c'est une référence à quelque chose historique qui existait, et un truc qu'ils ont appelé Lamputozo, qui aussi... Enfin, il y a des références super intéressantes à l'histoire japonaise au milieu. Le meilleur du mieux. Je t'écoute.
J'ai mis deux doigts dessus.
J'ai mis un doigt dessus.
Vas-y.
Les larmes de l'assassin.
Ah ben, tu vois, pour cette fois, je contredis. Ikigami.
Ikigami ?
Ouais.
Ah ouais.
Parce que je trouve que c'est un vrai tome où il y a une vraie... C'est malsain, mais comme je te disais, voilà, il y a une vraie avancée, je trouve, dans l'histoire. Parce que ça fait quand même plusieurs tomes que je réclame que Fujimoto passe un peu à l'action, qu'il se passe un truc. Et ben, je trouve que là, il se passe un truc.
D'accord. Ben, moi, les larmes de l'assassin, déjà, je ne remercierai pareil. C'est Dali, en fait, qui me l'a refilé en me disant « Prends-le, il faut que tu fasses une chronique dessus. »
Ben, les cités Dali, dis-donc.
Ouais, aujourd'hui, c'est donc notre libraire qui m'a dit « Prends-le, il faut que tu fasses absolument une critique dessus, c'est trop bien. »
Pensez à nous, pensez à nous.
Et donc, j'ai été obligé. Oui,
mais c'est parce que c'est un magasin de bande dessinée qui est exceptionnel.
Mais oui, la Bédérie, franchement. Hein,
c'est pas très loin, en plus, maintenant, la rue est piétonne.
Ouais, ça fait chier pour les livreurs. Notre hors-sujet, très cher, et là, je vais te laisser travailler, car tu vas nous parler de l'œuvre de Robin Hobb. Je t'écoute, fais-moi rêver.
Pourquoi tu ne peux pas en parler ?
Non, pour une fois, c'est moi qui ne connais pas du tout.
Alors, Robin Hobb, donc de son premier nom d'écrit...
L'écrivaine.
Attends, la dernière fois j'ai vu un truc, je change juste de sujet. C'était.
Si tu changes de sujet pendant le hors-sujet, mais juste pour
retourner. Non, là c'est n'importe quoi. Mais voilà, il y a un moment où il faut peut-être arrêter de mettre des noms au féminin. C'était.
Bon, c'est pas grave.
Je l'ai plus, enfin voilà, tête. C'était.
Oui,
voilà,
non, mais des fois exemple, c'est pas.
C'était plus sur.
Des fois c'est pas très élégant.
Oui, auteur avec un E.
À la rigueur, ça passe.
Mais non, ça passe pas. Dans ce cas-là, je veux dire, tu mets un féminin à tous les mots, dans ce cas-là, tu mets un masculin aussi à tous les mots. C'est une catastrophe.
Oui.
Hein ?
Bon.
Prends une verre, s'il te plaît. Voilà, ben, on change tout, alors. Voilà, c'était le coup de gueule, c'est fait.
Le coup de gueule, voilà.
Donc, leur sujet, donc, sur Robin Hobb, qui est un écrivain d'Heroic Fantasy.
Un masculiniste.
Je suis un genre-philiste. Les mots, ils ont un genre, on ne va pas le changer.
Ok, donc vas-y, Robin Hobb, merde!
Merde! Donc de son premier nom, Miguel Lindholm, qui a
donc
fait.
Rien à voir avec la plomberie.
Alors, donc, qui est une femme, qui a donc écrit beaucoup donc, d'histoires d'Heroic Fantasy, qui est plus connue pour son cycle donc, sur les anciens avec l'Assassin Royal.
Qui existe en BD.
Ce n'est pas une. Franche réussite.
Graphiquement, scénaristiquement.
Scénaristiquement, les bouquins sont exceptionnels. Ça, c'est mon avis personnel.
Et donc, c'est bien adapté, je veux dire, scénaristiquement.
C'est bien adapté, mais il y a tellement les bouquins sont tellement riches que quand tu prends la BD, tu t'as lu les livres, tu fais mais ouais les gars.
Donc un peu beaucoup de choses. Et au niveau du dessin, ça t'a ouais correct sans plus.
Correct sans plus.
Ouais, bon. Et donc oui, c'est connu pour l'Assassin Royal. Et c'est de ça que tu veux nous parler ou...
J'y arrive. Donc, du cycle de l'Assassin Royal, où on va donc suivre les aventures donc, de Fitz Chevalerie, qui va devenir l'assassin de la famille royale, pour différents, de la famille Loinvoyant, pour différentes raisons. Puis, ça a été suivi des aventuriers de la mer. Je suis en train de situer le truc, tu vois.
D'accord.
Qui est donc une autre aventure qui se situe donc, beaucoup plus au sud, dans le même pays, très loin donc, de Castelcerf qu'on avait au tout début dans l'Assassin Royal.
Ouais.
Donc, dans le royaume avec Terrilville.
Terrilville. C'est le nom de la ville.
C'est le nom de la ville.
D'accord, oui.
Donc avec des...
C'est pas un mec qui s'appelle Terry et qui est ville.
T'es une hyène quand même.
Ah ouais, un peu. Vas-y, continue.
Donc, Terrilville, où là, dans les aventures de la mer, on va voir un petit peu la naissance des... sur la légende des dragons dans ce, monde de, ce monde-là.
C'est-à-dire les dragons dans ce monde-là, c'est quoi ?
C'est un dragon. Alors, le dragon, en fait, a différentes phases dans sa vie. D'abord, il est un serpent de mer.
Ouais.
Puis ensuite, il va faire une sorte de cocon. Puis ensuite, il va sortir sous la forme du dragon.
C'est quoi ? C'est un animal ? C'est un truc intelligent ?
C'est un animal intelligent qui peut parler avec certains êtres humains.
D'accord. Parce que c'est vrai que le dragon, ça peut... il y a quand même beaucoup d'approches différentes en fonction des univers d'Heroic Fantasy.
Et qui était donc justement un animal très important dans une très ancienne culture qui était les anciens.
Oui.
Alors, aucun lien avec Stargate, hein, désolé.
Oui. Comme j'ai pas suivi Stargate.
Et donc, les anciens ont disparu, leur cité aussi, mais il y a encore des restes et il reste encore un dragon, donc Tintaglia. Donc, on nous raconte l'histoire dans Les Aventuriers de la mer.
D'accord. Donc, c'est deux séries dans le même univers qui racontent des.
Puis ensuite.
Voilà, ok.
Donc, parce que Tintaglia, c'est le dernier dragon dans Les Aventuriers de la mer. Puis ensuite, on arrive à les aventures. On revient avec Fitz et qui va de nouveau
c'est
avoir.
C'est toujours le cycle de l'Assassin Royal ou c'est un autre cycle avec les mêmes personnages ?
Alors, c'est le cycle de l'Assassin Royal qui va reprendre. C'est un nouveau cycle. D'accord. Dans l'Assassin Royal qui va reprendre des personnages de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la mer. Parce qu'en fait, il faut le suivre dans la chronologie. Il faut lire les tomes dans ce sens-là.
Ah ouais, ça fait. Tu prends pas ça en cours de route, quoi.
Tu peux, mais alors ça devient complexe à suivre.
Ouais, parce que là déjà en essayant de suivre. Et donc ce nouveau cycle, il a un nom ce cycle ou c'est.
C'est la suite de l'Assassin Royal. Je crois qu'il a un nom, mais je ne l'ai plus.
D'accord.
Alors donc il y a toujours les mêmes personnages. Hein. Le personnage du fou qui est un personnage, on va dire, assez androgyne. On ne sait pas trop si c'est un homme, si c'est une femme.
Marilyn
si...
Manson.
Donc je finis juste. Hein. Et donc Robin Hobb. Après donc, ce deuxième cycle Assassin Royal a sorti un nouveau cycle qui est la suite de ce qui se passe à Terrilville après les Aventuriers de la Mer et après le deuxième cycle de l'Assassin Royal.
Ok, nouveaux personnages ?
Alors, il y a des personnages qui reviennent,
okay.
Dont on parle. Pour l'instant, on n'a pas revu des précédents tomes, mais on sait qu'ils sont présents, on sait qu'ils agissent. Et donc là, bah, c'est les futurs... La Cité des Anciens, qu'est-ce qui s'y passe, les futurs
c'est nouveaux... lisible sans avoir lu le reste, ce dernier cycle.
Je le déconseillerais.
Tu le déconseillerais? Non, parce que moi, je sais que, par exemple, j'avais voulu m'intéresser, bon, en parlant de vieilles choses, hein, à Lance Dragon à un moment. J'avais adoré certains bouquins de Wes et Hickman, mais quand j'ai voulu commencer à lire Lance Dragon, ça m'a un peu piqué, quoi. C'est écrit avec les dés qui roulent, quoi. C'était assez violent. Vous voyez bien que c'était une adaptation d'une campagne et qu'ils savaient pas encore écrire. Ils ont appris entre temps.
Hein, parce que... Oui, mais là, si tu veux, elle sait écrire.
Oui. Mais il y a quand même des progrès, une amélioration, quelque chose qui.
Je pense que le début de l'Assassin Royal, elle était déjà arrivée à sa maturité.
D'accord.
Donc du coup.
Donc la vie, ça se décrépit, c'est de pire en pire.
Non. Non, non, très honnêtement. Alors, ouais. Je comprends très bien que sur la longueur, elle perd, on va dire, des fans. Et du coup, sur la longueur aussi, il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'y mettre parce qu'on se dit, bon, bah, s'il faut avoir tout lu pour tout comprendre, ça peut être lourd. Certes.
Bon, après, c'est comme n'importe quel cycle de fantasy. Tu lis les premiers, si t'accroches, tu continues, sinon t'arrêtes, quoi. Et si ça a continué aussi longtemps, c'est que ça a accroché suffisamment de monde à la base.
Bah, surtout, c'est que les personnages, toujours centraux, ont la qualité. D'être, moi je trouve, super attirant.
C'est pas trop archétypal, c'est pas.
Alors, ben, si on reprend donc le personnage de Fitz, il a tous les doutes et toutes les forces du héros.
On n'est pas dans le truc initiatique de base Heroic Fantasy avec le petit jeune qui découvre qu'il a un avenir et qu'il y a une prophétie autour de lui.
Il a pas de prophétie.
Ah. Mais c'est un petit jeune qui... et qui va avoir des grands pouvoirs.
Il ne va pas avoir de grands pouvoirs. Par contre, il va avoir des grandes responsabilités.
D'accord.
Mais il lui arrivera toutes les merdes de la vie. Quoi. Et je trouve que, juste peut-être le fait que ce soit écrit par une femme, tu as une sensibilité au niveau des personnages qui est vraiment super intéressante.
Ok. Bon, je sais que tu ne les lis pas en VO. Que dire de la traduction ? Ça te semble correct ? Tu n'as jamais rien marqué qui t'est... Ça change le traducteur en cours de route ?
Alors, visible, sur les cycles, oui, ça a changé en cours de route. Par exemple, là, sur la Cité des Anciens, c'est. Merde, je n'ai plus le nom en tête.
C'est pas grave.
Voilà, ça a, changé, mais... ça a changé en cours de. En cours, parce que chez Pygmalion, je pense qu'ils ne sont pas qu'un seul traducteur.
Souvent, on essaie d'avoir le même traducteur qui suit un auteur. Bon, je pense principalement au Terry Pratchett. qui ont un traducteur de folie, mais c'était un peu nécessaire sur ce genre de titre.
Bah écoute, enfin, moi j'ai rien remarqué de qui, enfin, y a rien qui m'a choqué. Après, bon, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que des vrais puristes seraient peut-être plus plus au courant là-dessus, ou peut-être qu'ils ont peut-être noté des choses. Moi, rien. Mais après, surtout, ce qui est passionnant, c'est toute la chronologie et toute l'histoire qu'elle est en train de créer dans son monde. Parce que par petits morceaux, par petites bribes, elle te fait un pulse géant d'un monde fictif, mais qui prend corps au fur et à mesure des tomes, quoi. Et en t'intéressant sur des petits bouts de l'histoire, tu commences à avoir une sorte de terre du milieu, quoi.
Ça reste quand même très connoté grosse fantaisie commerciale. Est-ce que t'as pas l'impression que au fur et à mesure que ça se continue juste parce que ça marche et que il faudrait peut-être qu'elle essaye d'écrire autre chose, un autre univers, quelque chose.
Alors elle a déjà changé un petit peu de registre. Elle avait arrêté justement le cycle sur ses anciens milieu des années 2000 avec le cycle du soldat chaman.
Oui.
Qui était donc quelque chose de, je dirais, assez différent, même si là encore une fois, donc c'est
d'ailleurs signé de son premier nom, celui-là, je crois.
Non, pas encore. C'est après le soldat chaman. Elle avait, j'ai vu des nouvelles comme quoi elle se mettait sous son vrai nom, Megan Lindholm, enfin qui est un surnom parce que Lindholm c'est son vrai nom, mais c'est Margaret quelque chose, je crois.
Oui.
Visiblement, elle s'est repris à éditer sous son nom de.
Oui, la marque est importante quand même.
Bah, peut-être que pour le cycle sur les anciens, elle se dit il vaut mieux que je fasse sous le nom qui m'a fait connaître.
Ok.
Donc le cycle du Soldat Shaman qui est totalement dans un monde totalement différent et là aussi histoire intéressante parce que c'est le développement de la nature, l'écologie, il y a pas mal de questionnements sur l'industrialisation.
Quels sont dans son univers, quelles sont les particularités qui fait que ce n'est pas un univers d'heroic fantasy bateau, sauf bien sûr pour les aventuriers de la mer qui est forcément un cycle bateau.
Je dirais deux choses. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'épaisseur psychologique des personnages. Et là-dessus, on pourrait presque citer tous les personnages. Alors, c'est certain que maintenant, je commence à voir une certaine redondance dans les personnages.
Oui.
Mais là-dessus, c'est quelque chose que je n'avais pas trouvé dans beaucoup d'heroic fantasy.
Ce que je veux dire, c'est oui, mais ça, c'est l'épaisseur. En général, il y a un univers. Ça pourrait se passer dans n'importe quel univers. Ce qui est important, c'est les personnages. C'est ça que tu veux dire ?
Le personnage, déjà, fait que je le trouve plus. Enfin, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que dans d'autres bouquins d'heroic fantasy.
D'accord.
Parce qu'ils sont mieux décrits, peut-être avec plus de finesse. Après, c'est un choix personnel, hein, c'est mon goût personnel. Et ensuite, la richesse du monde qu'elle te donne à parcourir, parce qu'au fur et à mesure, tu vas avoir des questionnements sur comment c'était avant, et tu vas avoir des petites réponses par bribes, ou tu vas avoir donc des fins d'histoire où tu vas toi aussi avoir envie de connaître la fin. Moi, je sais qu'en lisant Les Aventuriers de la Mer, je voulais connaître la suite, quoi.
Oui. Et oui, tu t'es pris au jeu, tu voulais la fin.
Oui, tu te prends au jeu parce que, et pourtant, entre Les Aventuriers de la Mer, tu as encore un cycle de l'assassin, donc tu rechanges de continent.
Ça n'a pas l'air évident tout ça quand même.
Ben en fait,
faut commencer par l'Assassin Royal et ensuite y aller en
douceur. Ça commence dans la zone A, puis deuxième série, c'est dans la zone B. Troisième série, tu reviens dans la zone A. Quatrième série, tu reviens dans la zone B.
Alors, question bête, est-ce que c'est bien guidé ?
Oui.
Non, dans le sens où moi, je m'étais déjà arrivé de tomber sur des cycles où on ne te disait pas vraiment dans quel ordre il fallait bien lire les livres pour apprécier.
Alors, il faut pas suivre l'ordre de l'éditeur français Pinot Lyon. Parce que sinon, vous allez lire tout le cycle de l'Assassin Royal. Et je crois que ça va être au tome 8. Vous vous retrouvez avec des personnages des Aventuriers de la Mer. Et là, en fait...
Vous êtes perdu.
Vous êtes un peu perdu parce que le fou.
Il aurait arrivé des choses en
parce
fait.
Parce que le fou est le personnage qui a été dans les trois séries, dans les trois premières. Et donc il connaît des personnages des Aventuriers de la Mer qui viennent dans la zone A, la fameuse.
Ouais.
Ils ont un bateau. Et donc du coup, on se retrouve avec un mélange. Et là, je pense que ça peut devenir un petit peu casse-gueule pour quelqu'un qui le lit dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de respecter les cycles, surtout qu'en respectant les cycles, je pense qu'on revient ensuite sur le cycle de l'Assassin Royal avec une vraie fraîcheur pour re-suivre les aventures de Fitz presque 20 ans après.
D'accord. Bon, ben, donc, l'œuvre de Robin Hobb, dans son univers, qui s'appelle l'univers, il a un nom d'ailleurs. Hein. Dans son univers.
Dans son.
Impitoyable.
Voilà, fallait dire.
On va pouvoir conclure. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous être fidèles, merci de nous découvrir si vous ne nous êtes pas fidèles.
Et de devenir fidèles si vous nous découvrez.
Si vous nous découvrez. Qu'est-ce qu'on fait des belles phrases. Comme d'habitude, nous sommes présents sur Facebook, avec une jolie page.
Sur Facezone, s'il te plaît.
Ouais, nous sommes présents sur Twitter. Vous pouvez trouver tout ça sur notre site, lavoixdesbulles.fr. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le blog ou sur iTunes, c'est notre récompense. Puis si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi, en plus de faire tout ça, cliquez sur les bannières Amazon pour commander les BD que nous vous recommandons.
Et nous remercions aussi tous les services de presse. Si voilà. Vous voulez nous envoyer des bandes dessinées, n'hésitez pas.
Ah ouais, c'est trop bien.
On se fera une joie de les lire.
Et bien maintenant, nous allons vous lâcher pour aller prendre un petit punch en terrasse, en t-shirt, car il fait trop beau. Et merci à vous.
Ça fait presque 6 heures qu'on est enfermé dans une pièce.
Merci à vous, à bientôt et à dans 15 jours. Ciao.
Ciao.